nous dit, ayant en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des morts, tant des justes que des injustes, c'est pourquoi moi-même aussi, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ferme dans cette espérance, Paul s'exerce donc à avoir une conscience qui n'offre aucune prise à l'attaque et n'amène à aucune chute. Paul nous dit quelle vie il a choisie, celle d'une vie juste devant Dieu et devant les hommes. Alors nous sommes au troisième mois de cette invitation à bâtir notre vie sur du solide. Ce fondement solide sur lequel nous sommes appelés à bâtir notre vie, ce roc, c'est Jésus. Et nous avons vu lors des deux premiers mois, tout d'abord, l'invitation que nous avons à venir à Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver de la mort et du péché. Nous avons vu ensuite la transformation que Dieu souhaite opérer dans nos vies pour être à l'image de Dieu, au travers du passage sur les béatitudes. Nous allons voir aujourd'hui, pour ce début de troisième mois, comment doit s'opérer ce changement dans nos vies. Dieu, en effet, souhaite avoir dans ce monde des gens qui vivent autrement. Dieu souhaite construire sur le fondement qu'est Jésus un édifice nouveau. Et après les béatitudes, Jésus va exposer différents aspects que l'on peut considérer comme des piliers de la vie chrétienne qui doivent façonner justement l'édifice que Dieu veut faire de nos vies. Et nous allons voir ce matin le premier aspect que Jésus développe en Matthieu 5, donc Matthieu chapitre 5, et nous lirons du verset 21 à 26. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raca !» mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alors le passage que nous venons de lire se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, certainement le collecteur d'impôts, juif au service de Rome, va être appelé à être un des disciples de Jésus. Et il va s'attacher dans l'évangile à témoigner du ministère de Jésus et au travers de ce ministère, de l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament accomplies en Jésus-Christ. Et le chapitre 5, où se situe notre passage, parle d'un moment précis de la vie de Jésus. Nous sommes au début de son ministère. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, il nous est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait toute maladie et les langueurs parmi le peuple. et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui présenta tous ceux qui se portaient mal, atteints de diverses maladies, de divers tourments, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérit. Et de grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. La renommée de Jésus grandit. Et de fait, une grande foule le suit. Voyant la foule, Jésus monta sur une montagne et va commencer à enseigner. Cet enseignement de Jésus, appelé ici « Sermon sur la montagne » plus communément, couvre l'ensemble des chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Et même si seul Matthieu met tout cet enseignement en même temps, il représente à lui seul un enseignement complet qui traite du comportement du disciple, le comportement du citoyen appelé du royaume de Dieu. Il commence d'ailleurs par les béatitudes, qui est le préambule de ce sermon, à parler de qui est ce citoyen du royaume. Après avoir annoncé en Galilée la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Jésus va s'attacher à dire qui est celui qui peut devenir citoyen du royaume de Dieu. Citoyen du royaume de Dieu. Ce portrait montre toute la transformation nécessaire dans nos vies afin d'hériter du royaume de Dieu. Et cette transformation que Jésus souhaite, elle commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui pour celui qui accepte Jésus dans sa vie. Il nous est dit d'ailleurs, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes aujourd'hui le sel de la terre. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie débarrassée de nos fautes, de nos limites, de nos freins. Une vie selon la justice de Dieu et non selon notre propre justice. Le verset précédent, notre passage, dit justement, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » L'enseignement de Jésus est puissant. Il est puissant et il est sans détour. Et lorsqu'on lit le sermon sur la montagne dans son ensemble, nous voyons combien l'exigence est grande. Combien l'exigence paraît insurmontable. Mais je crois que cet enseignement est simplement nécessaire. Il est nécessaire parce qu'on a besoin d'entendre la vérité. La vérité ne peut pas être cachée. Et la vérité de nos vies, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la délivrance en Jésus-Christ. Il n'en est pas autrement. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Jésus va enseigner la vraie justice. Il va s'attacher à montrer au travers de différents exemples, et notamment en prenant pour exemple les commandements, combien notre justice, celle que nous percevons, est différente de celle de Dieu. Alors Jésus va commencer son enseignement ici en mettant en avant, on pourrait dire, toute la portée et la puissance spirituelle du sixième commandement. Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Alors néanmoins, Jésus n'est pas venu dans ce passage remettre en question les commandements. Il n'est pas venu remettre en question la loi. Il dit d'ailleurs, juste avant, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Elle est accomplie au travers de lui, afin qu'elle soit gravée dans notre cœur. Ce sixième commandement, donc, que les Juifs tenaient pour tellement important, le comprenaient-ils vraiment ? Ce commandement qui nous montre que nous sommes passibles de jugement, Christ en montre aussi la pleine signification dans notre propre vie. Jésus va montrer à tous ceux qui croient pratiquer la justice de Dieu qu'ils sont assez loin de la vérité, de la justice de Dieu. Ils arrivent à percevoir en effet certaines choses visibles de la justice, mais ils n'arrivent pas à considérer les significations profondes pour leur propre vie. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce que reproche Jésus aux pharisiens et aux sadducéens qui étaient venus pour l'éprouver, en Matthieu chapitre 16, verset 2. Jésus leur répond « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. » Ça, vous savez discerner. Mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous savez respecter ce qu'ordonnent les commandements. Mais savez-vous discerner la pleine signification que cela représente pour vos vies? Êtes-vous si juste que vous le pensez? Dans son enseignement, Jésus va utiliser donc trois exemples. Trois exemples très parlants, proches de ses contemporains et remplis de bon sens. Et dès le premier exemple, Jésus plante le décor. Nous ne sommes pas seulement coupables au travers de nos actes, mais avant tout à cause de notre cœur, d'où viennent nos mauvaises attitudes. Et Jésus prend ici, pour exemple, trois attitudes dans son exemple. La colère, l'injure, le jugement, et tout cela avec une conséquence commune. Il nous dit « la colère est passible de jugement, comme l'est d'ailleurs le non-respect du sixième commandement ». Traiter son frère de raca, c'est-à-dire de stupide, traiter quelqu'un de stupide gratuitement, par méchanceté pure, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Très parlant pour les Juifs de l'époque, très parlant pour ceux qui écoutent. Le Sanhédrin, c'est le tribunal de Jérusalem, la cour suprême, celle ayant droit de vie et de mort. Enfin, dire de quelqu'un qu'il est insensé, que c'est un fou, c'est juger quelqu'un. Et il nous dit « c'est passible du feu de la Géhenne ». Encore un terme parlant pour les Juifs de l'époque. Le terme « Géhenne » vient de la vallée de l'Hinnom, au sud de Jérusalem, là où les Cananéens faisaient brûler des sacrifices humains à Moloch. Et après le retour des Juifs de captivité, ils en firent un lieu de décharge où on jetait et brûlait les ordures de la ville. Et ce nom est utilisé par les Juifs pour désigner un lieu de châtiment futur. C'est toujours un lieu de châtiment. Au travers de ces trois attitudes, nous voyons bien un seul et même constat. Nous sommes, au travers de nos mauvais comportements, soumis à la même sentence que celle entraînée par le non-respect du sixième commandement. Nous sommes aussi coupables que ceux et celles qu'on amène devant les tribunaux pour cause de meurtre. Ces mauvaises attitudes, nos mauvaises attitudes, sont similaires au meurtre. Le péché de l'homme ne trouve pas son fondement dans nos actes, mais dans notre cœur. Jésus nous dit encore en Matthieu 15, verset 18, « C'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Quelle claque ! Avec cet exemple, ceux qui se croient justes, qui pensent respecter ce commandement, peuvent déjà trembler en considérant leur propre cœur. Le cœur nous condamne déjà. Quiconque est son frère, nous dit Jean dans son premier épître, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je crois que nous avons d'abord ici un appel à considérer notre propre vie. Et au travers de notre propre vie, notre propre justice. Et quand je considère les paroles de Jésus, je ne peux que me sentir coupable. Coupable de ce que je suis. Et l'exemple de Jésus, il est parlant parce qu'il nous touche tous. Qui n'a pas été en colère? Qui n'a pas insulté? Qui n'a pas porté un jugement hâtif, gratuitement? Le Seigneur le sait bien. Et il nous invite à reconnaître que nous ne sommes pas justes. Et qu'à ce titre, nous avons besoin de rétablir dans notre vie ce qui n'est pas selon la justice de Dieu. ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Alors le deuxième exemple que Jésus prend ici vient finalement placer nos comportements avec autrui, nos mauvais comportements envers autrui, dans un contexte de relation avec Dieu. Il nous dit au verset 23, « Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va premièrement, réconcilie-toi avec ton frère et alors viens présenter ton offrande. » Et alors viens présenter ton offrande. L'offrande à l'autel témoigne de cet acte volontaire de plaire à Dieu. Personnellement, je viens à Dieu. Je viens lui présenter mon offrande. Et dans ce moment particulier où nous recherchons notre communion avec Dieu, si nous reconnaissons que nous avons dans notre vie une situation qui nous condamne, qui n'est pas réglée, qui peut représenter un obstacle, eh bien Jésus nous montre que nous devons aller nous réconcilier. Le fait d'être en conflit avec quelqu'un, d'avoir des choses qui ne sont pas réglées, ne sont pas sans conséquences dans notre relation avec Dieu. Il n'est pas possible de rechercher une relation avec Dieu pleine, véritable, en laissant dans notre vie volontairement des choses qui ne sont pas réglées. Jésus-Christ met le doigt dessus. Lorsque nous avons des choses qui ne sont pas réglées, va, premièrement, te réconcilier. Tu dois mettre les choses en règle. Cet exemple ici rend visible, il rend visible dans notre relation avec Dieu l'obstacle que peut représenter une situation de conflit dans notre relation avec Dieu. Et ce que Dieu nous demande, c'est de rétablir les choses selon sa justice. Vous savez, Jésus a accompli le seul et unique acte de pardon et de réconciliation. Cet acte qui nous a réconciliés avec Dieu. Par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils unique afin de donner sa vie en rançon pour nous, afin de nous pardonner nos péchés. Et il nous a réconciliés avec le Père. Il a rétabli la relation avec le Père. Et à cause de cela, nous sommes invités à faire de même dans nos vies et dans nos relations avec les autres. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous sommes au bénéfice du plus grand et puissant pardon qui nous vient de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à travailler aussi dans ce sens, dans nos vies. Supportez-vous les uns les autres, dit Paul aux Colossiens. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il est de notre devoir de nous pardonner les uns les autres, imitant le pardon au travers duquel nous sommes sauvés. Alors, ce qui m'interpelle aussi dans cet exemple de Jésus, c'est ma part. Jésus met le doigt dans ma vie sur ce qui doit être réglé. Mais il dit « va » premièrement. J'ai ma part à faire. Je dois prendre une décision. Et cette décision n'est pas facile. Allez pour demander pardon. Ne plus laisser d'amertume, recréer un climat apaisé. Pardonner, se réconcilier, cela coûte de devoir aller se présenter devant celui avec lequel on est en conflit et de régler les choses. Notre orgueil est là, ça fait mal. Il faut se découvrir, accepter de reconnaître ses torts, surpasser ce qui fait la division pour pouvoir accéder au pardon et à la réconciliation. Mais nous avons notre part à faire. Va premièrement. Aller demander pardon, ça me coûte. Mais c'est nécessaire. Et on sait bien que ce n'est pas naturel à l'homme de reconnaître ses fautes. Ce n'est pas naturel à l'homme d'aller et de demander pardon. Mais si je laisse cela ainsi, je laisse entre une personne et moi une barrière. Une barrière qui peut devenir une pierre d'achoppement, un obstacle dans sa vie et dans ma vie. Qui peut rester un obstacle dans ma relation avec Dieu et dans sa relation avec Dieu. Je crois que nous avons aussi dans cet exemple un encouragement, une exhortation à ne pas fermer notre bouche, à ne pas retenir dans notre cœur la justice de Dieu, la justice que Dieu veut rétablir dans nos vies. Va premièrement, réconcilie-toi. Alors en parlant de fermer nos lèvres et de retenir dans notre cœur la justice de Dieu, j'ai trouvé le psaume 40 puissant pour nous témoigner de cela. Dans le psaume 40, au verset 8, nous lisons « J'ai pris plaisir, ô mon Dieu, à faire ta volonté. » Écoutez bien. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé ta justice dans une grande assemblée. Voici, je n'ai pas fermé mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je n'ai pas retenu ta justice au fond de mon cœur. J'ai raconté ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point caché ta grâce et ta vérité dans la grande assemblée. Et toi, Éternel, toi, Éternel, tu ne retiendras pas tes compassions à mon égard. Ta grâce et ta vérité me garderont toujours. Je n'ai pas fermé mes lèvres. Je n'ai pas retenu ta justice au fond de mon cœur. Et toi, tu ne retiendras pas tes compassions. Ne laissons pas captifs ce qui doit être réglé devant les hommes et devant Dieu. Alors je crois qu'il est important, dans une telle situation, de pouvoir se placer d'abord et avant tout devant Dieu dans la prière et de lui demander de pardonner nos offenses et de lui demander aussi de pouvoir pardonner à notre tour. D'ailleurs, Jésus nous dit dans la prière comment il convient de demander. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Jésus nous invite à mettre cela devant lui dans la prière. Ici, Jésus est tout puissant pour nous pardonner. Alors il est tout puissant, pour nous aider à rétablir ce qu'il a voulu qu'on règle dans nos vies. Je crois que si nous faisons sincèrement cet acte de soumission à Dieu, parce que c'est bien de soumission qu'il s'agit, en voulant demander pardon, à rechercher la réconciliation avec quelqu'un comme il nous le demande, il est tout puissant pour nous aider. Alors vous avez vu dans ces exemples, nous n'avons pas forcément l'objet du litige, ni clairement qui a tort, qui a raison. Si un frère a quelque chose contre toi. Mais je dirais que le plus important en soi n'est pas la cause du litige. Mais Jésus nous invite ici dans cet exemple à être des artisans de paix. Et cela, on le voit de manière claire. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, nous dit Jésus, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Je crois qu'il est important de considérer ces deux aspects dans notre vie. Parce que cela peut nous aider dans notre cheminement de réconciliation. qui n'a pas été offensé et qui n'a pas été offenseur dans sa vie. Alors il y a des degrés différents, effectivement. Mais si nous nous examinons nous-mêmes, nous pouvons considérer ces deux aspects à travailler dans notre vie. Demander pardon et pardonner. L'un et l'autre ne sont pas faciles, mais ils sont essentiels, car l'un ne va pas sans l'autre. Là où il y a eu réconciliation, une demande de pardon a rencontré un pardon donné. Il n'en est pas autrement. Là où il y a réconciliation, un pardon donné a rencontré une demande de pardon. Et le troisième exemple de Jésus va encore nous témoigner de la nécessité de rechercher la réconciliation. Au verset 25, nous lisons « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge à l'huissier et que tu ne sois jeté en prison. » La conséquence d'un litige non réglé et sans appel pour celui qui est fautif, c'est la condamnation. C'est comme lorsqu'on jette une pièce en l'air, nous savons qu'elle va retomber, nous le savons d'avance. Mais ce qui me parle ici avant tout, c'est « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. » Le conseil que donne le Seigneur à celui qui va être accusé est de se mettre promptement d'accord avec son adversaire tandis qu'il est en chemin. C'est-à-dire pendant qu'il en a encore le temps. S'il ne le fait pas, il court le risque d'être livré au juge, puis à l'officier de justice et d'être jeté en prison. Et il ne sortira pas tant qu'il n'aura pas payé le dernier centime. Alors, est-ce là tout le sens de cette exhortation ? Dans ce cas, elle ne renferme qu'un bon conseil de prudence, de sagesse, dans ce qui concerne les affaires de la vie. Mais ici, Jésus nous exhorte à la réconciliation avec les frères. Et à cause de cela, de notre responsabilité envers Dieu. Et il est évident que cet exemple peut nous donner une image plus profonde de ce que représente la nécessité de rechercher le pardon et la réconciliation. Vous savez que nous sommes tous en chemin vers Dieu. Tous, nous avons envers nos frères et nos sœurs des torts. Des torts dont il nous sera demandé compte. Et des torts qui suffiraient à nous faire condamner. Et s'il est impossible même d'apporter à Dieu une offrande sans être réconcilié avec un frère offensé, comment espérer un jour être absous devant le tribunal céleste? Je crois que nous pouvons considérer cela dans nos vies. Bien souvent, nous mettons de côté nos différends, nos conflits. Ah, oh, c'est bon, tant pis pour lui. Hein. Ça fait longtemps maintenant, il a oublié. Personne ne le sait, de toute manière. Donc je peux bien vivre comme ça. On préfère l'étouffer, on préfère l'oublier. Mais un jour, Jésus, il vient remettre le doigt dessus. Et il nous enseigne que nous devons mettre ces choses en règle dans notre vie, maintenant. Mais je crois que nous avons dans notre vie, et nous ne devons pas l'oublier, pendant que nous sommes en chemin, c'est-à-dire que nous avons encore la possibilité de régler les choses, de pouvoir le faire. Alors Jésus-Christ, dans ce passage, m'a montré que finalement, je n'étais pas aussi juste que je pensais l'être. Il m'a montré aussi, en mettant le doigt dessus, que lorsque j'ai une situation de conflit, je dois la régler. Il m'a montré aussi que je dois mettre toute chose devant Dieu, parce que lui seul est tout puissant pour me pardonner. Mais quand agir? Et comment agir? Il est très difficile de savoir le moment opportun lorsqu'on parle de pardon et de réconciliation entre deux personnes. Il est très difficile. Cela ne dépend pas que de nous. Mais cet exemple nous montre en tout cas qu'il y a un temps opportun, celui où on est encore en chemin. Un temps où tout n'est pas encore scellé. Que ce temps soit court ou que ce temps soit long, nous devons le saisir dans notre vie. Et donc cet exemple m'invite à agir. À agir et à m'accorder. Alors j'ai cherché et je me suis dit, mais quand agir et que dire ? Moi, personnellement, je me sens faible. Je me sens sa force, incapable d'agir, surtout quand il est question de rapport avec les autres. Me décider à faire quelque chose, oui, mais comment le faire ? Alors je me suis rappelé de ces paroles de Paul dans sa lettre aux Colossiens. Lorsqu'il demande de prier pour lui et pour ses frères dans l'annonce de l'Évangile. Vous savez, l'apôtre Paul avait cette particularité à témoigner aux autres des besoins qu'il pouvait avoir. Et il demandait à ses frères et sœurs de l'église de Colosse de prier pour lui, lui le grand évangéliste, afin que la parole de Dieu soit annoncée comme elle doit être. Et je crois qu'il y a des similitudes entre, et on peut faire des similitudes entre cette demande de Paul pour annoncer l'Évangile et cette demande qu'on peut avoir dans nos vies, cette recherche de réconciliation avec les autres. Alors je vous lis ces paroles de Paul en Colossiens 4, verset 2. Paul dit à ses frères de Colosse dans sa lettre, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et que je puisse le faire connaître comme je dois en parler. » Alors ces paroles à elles seules sont merveilleuses. Et j'ai trouvé qu'elle pouvait être utile dans ma volonté de vouloir me réconcilier avec quelqu'un. Si on regarde cette demande de Paul, deux choses apparaissent ici. Paul fait cette prière au Seigneur d'ouvrir une porte, un moment privilégié, afin que puisse être annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. Paul n'avait pas oublié sa part. Sa part, c'était d'annoncer l'Évangile. C'était ce qu'il devait faire. Mais ce qu'il avait besoin, c'est que le Seigneur lui ouvre une porte, un moment particulier pour l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas simple de trouver un moment pour pouvoir le faire. De sorte que, en plus, Paul était dans les chaînes à ce moment-là, à plus forte raison. Comment trouver un moment approprié pour continuer à avancer, à annoncer l'Évangile de Jésus ? Eh bien, je crois que nous aussi, à quelque part, lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous sommes dans les chaînes. Et nous avons besoin que le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre une porte, nous permette d'avoir un moment privilégié afin de pouvoir nous réconcilier avec la personne. Parce que c'est lui qui peut nous ouvrir une porte, qui puisse susciter une occasion afin de nous réconcilier, qui prépare un moment afin de nous réconcilier. Dans sa demande, Paul dit ensuite de lui donner de parler comme il convient de parler. Paul, c'était un évangéliste, il a écrit des lettres, il a exhorté, il a témoigné devant beaucoup de personnes, et pourtant encore aujourd'hui, il fait cette prière à Dieu de lui donner de pouvoir parler comme il convient de parler, de faire connaître Christ comme il convient de le faire connaître. Eh bien, je crois qu'encore là, nous pouvons faire nous aussi cette demande à Dieu. cette demande à Dieu de nous assister dans ce moment et de nous donner de pouvoir parler, de pouvoir trouver les mots justes comme le Seigneur souhaite que nous parlions. Et nous savons que dans ces moments-là, il n'est pas évident de trouver les mots justes. Il y a l'angoisse, l'objet du litige, la crainte. Il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de souffrance. Nous pouvons être un bon orateur, un bon vendeur, mais quand il est question de se réconcilier, quand il est question de demander pardon ou de pardonner, ce n'est plus la même chose. On parle de sentiments, on parle de trahison. C'est un combat personnel. On parle de liens affectifs rompus. Alors il y a ma part, celle d'aller et d'annoncer, celle d'aller et de se réconcilier, celle que Dieu me demande, ma part, ma décision, va premièrement. Mais il y a aussi la part qui revient à Dieu, et on doit en être conscient. Et cette part-là, c'est la puissance d'accomplir dans nos vies toutes choses. Car finalement, qui peut obtenir le pardon et la réconciliation sinon Dieu ? Il est tout puissant pour nous ouvrir une porte. Il est tout puissant pour nous assister. Il est tout puissant pour nous dire comment il convient de faire. Et il est tout puissant pour nous libérer. Libéré de ce qui peut représenter un poids, un fardeau dans nos vies. Des chaînes qu'on ne peut pas briser nous-mêmes. J'ai vu une histoire sur Internet de deux filles. Deux filles qui étaient deux sœurs. Deux sœurs qui avaient été mises dans une maison pour des jeunes en difficulté. Ces deux sœurs étaient déjà très turbulentes et même violentes. Si violentes qu'elles ont fini par se détester l'une et l'autre. Et elles se combattaient l'une et l'autre. Et cela devenait tellement difficile dans leur relation entre elles que ça devenait aussi difficile pour les éducateurs. Et tout cela retombait sur toutes les personnes qui les entouraient, à la fois les éducateurs et à la fois les autres jeunes qui étaient là. Et cette division qu'il y avait entre ces deux personnes créait des conflits entre les autres. Et un jour, une des éducatrices était une chrétienne. Et elle a eu l'occasion de parler avec une des deux sœurs. Simplement. Et cette sœur lui a dit toute sa souffrance. Toute sa souffrance. Elle a été juste là pour l'écouter. Elle lui a dit simplement, si tu veux, on peut prier pour que le Seigneur te libère de cette souffrance que vous avez l'une et l'autre. Alors cette jeune fille qui n'avait jamais prié, elle a juste demandé que le Seigneur puisse lui donner une occasion de se réconcilier avec sa sœur. Que le Seigneur puisse faire tomber toute cette haine, toute cette décharge émotionnelle. Et pendant qu'elle priait, elle a senti cette libération, pour elle-même déjà. Une libération profonde et puissante. Elle a reçu un apaisement. C'était le pardon qui lui était accordé. Elle a compris aussi que le lendemain matin, elle devait aller voir sa sœur et se réconcilier avec elle. Le Seigneur lui a mis dans son cœur ce moment, c'est demain matin. Tu dois aller voir ta sœur. Le lendemain matin, elle se réveille, elle s'habille, et dans sa tête, ça travaillait. Je dois aller me réconcilier avec ma sœur, comment je vais parler, etc. Pendant qu'elle s'habillait, et qu'elle se préparait, sa sœur est arrivée, elle s'est jetée dans ses bras, et elle lui a demandé pardon. Quelle puissance ! C'est pas ma part. Il y a une part de puissance qui vient de Dieu. Et on doit l'accepter dans nos vies. Jésus-Christ est tout puissant pour nous libérer. J'ai fait ma part, mais lui fait sa part d'une manière telle qu'on peut en être étonné. Le pardon devient alors une puissance qui libère. une puissance qui apporte la délivrance. Alors c'est vrai, quand on lit les paroles de Jésus, on peut se sentir accablé, parce que Jésus met le doigt là où ça fait mal. Mais ce que Jésus veut, c'est pas nous accabler, c'est pas nous enfoncer, c'est pas nous détruire, mais c'est nous libérer. Il veut nous libérer dans l'état dans lequel on est. Le pardon, c'est une puissance qui libère, comme le pardon de Christ qui nous a libérés du péché et de la mort. Et ce que nous avons besoin tous, chacun et chacune dans notre vie, c'est bien d'être libérés. Qu'est-ce que nous n'avons pas comme frein, comme limite, comme difficulté dans nos vies? Eh bien, Jésus-Christ nous dit « Je suis venu pour vous libérer de cela ». Alors je voudrais, mes frères et sœurs, terminer par ces paroles. Dans le livre de Job, au chapitre 8, au verset 5, nous lisons cette promesse. Et nous savons combien Job a souffert. Si toi, tu recherches Dieu, si tu supplies le Tout-Puissant, si tu es honnête et droit, alors il veillera sur toi et te restaurera dans ta justice. Il te restaurera dans ta justice. Nous avons besoin d'être restaurés dans notre vie. Alors je vous propose juste de passer un petit moment en silence, afin de nous examiner nous-mêmes, afin de remettre devant Dieu ce que nous savons être un obstacle dans nos vies. De pouvoir lui soumettre notre volonté et de lui demander de nous aider à régler ce qui est difficile à régler dans nos vies, ce que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes. Oui, Seigneur, mon Dieu, je me reconnais comme pécheur. Quand je considère tes paroles, je vois combien ma justice est loin de ta justice. Et je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je reconnais aussi combien bien des fois je préfère laisser filer les choses plutôt que de les régler, parce que je les considère peu importantes, parce que je considère que ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Et Seigneur Jésus, combien de fois dans ma vie tu me montres que j'ai des choses à régler. Tu veux que nous soyons des artisans de paix, que nous travaillons à régler les choses comme tu veux qu'elles soient réglées. Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Tu vois le cœur de chacun d'entre nous ici présents ce matin, Seigneur. Tu vois tous les freins qui sont dans notre vie, tous les obstacles, toutes les difficultés, tous les conflits que nous pouvons avoir. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Aide-nous à pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à rétablir ce qui doit être rétabli dans nos vies, à restaurer ce qui doit être restauré. Je te prie ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que tu libères ceux qui ont besoin d'être libérés, que tu fasses tomber les chaînes de ceux qui sont emprisonnés, parce que tu es tout-puissant pour accomplir cela, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen.